Barbet de Revilly, Amaïdée, poème en prose, en exergue. Notre âme affamée, hélas, n'est assouvie que de souffles et de pleurs ensemble tour à tour. Pleurer et respirer, lequel est plus la vie? Pleurer et respirer, lequel est plus l'amour? Pleurer et respirer, que vous êtes vulgaire, mais nectar ou poison, Dieu nous fit enivrant, pour que l'homme se plût dans ses sources amères, comme hélas au sein des torrents. Inédit. Amaïdée. Un soir, le poète Sommegod était assis à sa porte sur la pierre qu'il avait roulée près du seuil. Le soleil, comme un guerrier antique dont on verrait briller l'armure d'or à travers sa tente, le soleil lançait plus d'un oblique rayon de son pavillon de carmin avant de se coucher dans l'océan, semé d'îles, ce magnifique lit de repos que Dieu fit pour lui d'un élément et étendit au bout du ciel comme une gigantesque peau de tigre à l'usage de ses flancs lassés. Et laboureurs dételaient aux portes des fermes. De jeunes hommes, bruns et beaux comme des actéons, poussaient les chevaux aux abreuvoirs. Des campagnes, couvertes de blé jaunissant et de haies fleuries, tiédissaient des dernières lueurs et des derniers murmures de chaque buisson lointain, de chaque bleuâtre colline, montait un chant d'oiseaux ou de voix humaines, dont le vent apportait et mêlait les débris avec la fleur des châtaigniers et la feuille roussie et détachée du chêne. La vie de l'homme redoublait ainsi la vie profonde du paysage. Au pied de la falaise où la nature avait creusé un arbre pour les vaisseaux en détresse, les pêcheurs traînaient leurs barques sur la grève, le dos tourné à l'occident splendide qu'ils n'interrogeaient pas pour le lendemain. La dernière voile, blondie par le soleil couchant, que l'on eût pu suivre à l'horizon, venait de disparaître comme un cap enfin surmonté, derrière une vague luisante et indéfinie, et la mer rêveuse restait là, le sein sans soupir et tout nu comme une femme qui a détaché sa ceinture et rejeté son bouquet pour dormir. Quelques mouettes s'abritaient au toit de la maison du poète Sommegod, bâtie sur la pente de la falaise. Pauvre maison dont le ciment tenait à peine et le toit pendait à moitié. Maison qui n'était qu'un abri au poète comme à la mouette sauvage. Aux hommes mortels, disait Sommegod, et aux oiseaux qui passent, faut-il donc plus que des abris? Le toit fragile branlait aux aspérités du roc éternel. Ainsi l'espérance en l'âme immortelle, cette frêle richesse des justes, a parfois pour base la vertu. Hélas, si fragile qu'il fût, bien des générations de mouettes y remplaceraient celles qui, lasses du vol et de la mer, y venaient sécher leurs ailes trempées. Et cette chose rare et grande, et qui dure peu, un poète aurait bien, après Sommegod, le temps d'y revenir. Une vigne que l'air marin avait frappée d'aridité, tordue au contour de la porte de Sommegod, semblait de ces couronnes que l'on appendait au seuil des temples anciens et qui s'y étaient flétries comme un don méprisé par les dieux. Sommegod était assis au pied. L'âpre souffle qui s'élevait de l'océan avec les vapeurs débrisant agitait ses noirs cheveux sur son front, en même temps si doux et si farouche, comme la double nature de tous ces formes relaissées et qui fuit en portant le roseau empenné dans les bois. Mais souvent, après ce vent mordant et froid, ce vent habituel des rivages, des terres cultivées et des collines parfumées qui s'étendaient à la gauche de la falaise, une haleine plus douce lui venait, comme si la nature se fût repentie, comme si, apaisée par de l'amour, elle avait eu peur de toucher trop fort son délicat et bel Alcibiade, qui n'avait pas, comme l'autre, jeté sa flûte dans les fontaines, mais qu'il avait gardée pour elle. Un jour, il était venu des villes, on ne savait d'où, et il s'était retiré sous ce chaume désert, et depuis longtemps abandonné, comme un oiseau de plus au milieu de tous ceux qui posaient leurs pieds sur cette falaise où il avait trouvé son nid, nid sans eux et sans douce couvée, car, plus sage que les aigles eux-mêmes, Sommegon n'avait pas de compagne qui lui peupla sa solitude. Si quelque jeune fille des pêcheurs, quelque belle et hardie créature, libre comme l'air vif de la montagne, bondissante et pure comme la mer, blonde comme les grèves environnantes, passait près de lui aux pentes de la falaise, aux sinuosités de la baie, Sommegon ne relevait pas la tête. Il s'en allait lentement et sans but, courbé déjà comme un homme plein de jours et d'expérience. On aurait dit que la jeunesse lui avait été donnée en vain. Quand les hommes cherchent la solitude, quand on les voit se rejeter au sein quitté de la nature, on les juge d'abord malheureux. Peut-être ce jugement n'est-il pas trop stupide pour le monde, car jamais la nature n'est plus belle que quand nous avons le cœur brisé. Mais le mystère, l'éternel mystère, c'est la douleur, cet ange à l'épée flamboyante, qui nous pousse du monde au désert et de la vie à la nature, et qui s'assied à l'entrée de notre âme pour nous empêcher d'y rentrer si nous ne voulons périr. C'est cette douleur que les hommes n'ont pas vue qu'à la face, et c'est le nom de cette douleur que les hommes ignoraient dans Sommegon. Ainsi, Sommegon avait souffert sans doute. Mais tant de choses font souffrir dans la vie qu'on aurait osé dire de quoi cette âme avait été atteinte. Ah, la tunique restait en plis gracieux sur cette poitrine et en gardait bien le secret. D'ailleurs, que ce soit pour l'empire, l'amour, la gloire, que nous tarissons nos âmes en soupirs, il résonne la même harmonie, ce ne sont tous que des soupirs, et Dieu seul ne les confond pas. Mais que ce fût orgueil, oubli, force ou faiblesse, Sommegon avait dompté les passions de sa première jeunesse. Les passions trompées ou invaincues ne se trahissaient pas à ses lèvres dans ses languissants sourires qui ne sont plus même amers tant ils disent bien la vie, tant on est allé au fond des choses. Nulle flamme âcre et coupable ne brillait dans ses longs yeux noirs, qui n'étaient sombres qu'à fort de profondeur, et que jamais la volupté et le doute, ces deux énervations terribles, ne lui faisaient voiler à demi entre ses paupières rapprochées, regards de femme, de serpent et de mourant tout ensemble, et que vous aviez au Byron. L'habituelle tristesse de son visage n'était pas une tristesse humaine. Elle n'était humaine qu'en tant qu'elle était tristesse, car les plus grandes sont encore de nous. À quoi rêvait-il, le poète, ce soir-là, assis sur son granit triangulaire, informe trépied pour la muse, tout ce qui reste à cette grande exilée du monde de son vieux culte de déesse, une pierre rongée de Christ marin et de mousse, au bord de l'océan et au fond des bois, et de loin en loin quelques poitrines. Pourquoi Sommegon, à cette heure sacrée, n'avait-il pas sa harpe entre ses genoux nerveux, ne fût-ce que pour y appuyer sa tête inclinée, écouter le vent du ciel et de l'onde, soupirer en passant à travers les cordes ébranlées l'agonie du jour? Ah, c'est qu'une harpe manquait à Sommegon, qu'elle manque à tous, et qu'elle n'est qu'un gracieux symbole. Les poètes passent dans la vie, les mains vides, oisives. ne sachant les poser que sur leur cœur ou à leur front, d'où ils tirent seulement quelques douces paroles, que parfois la justice de Dieu fait immortelles. Non, le poète ne rêvait pas à cette heure. Il parlait, et ce n'était plus par mots entrecoupés, comme eût en échappé souvent dans le silence, quand, ivre de la nature de la pensée, il versait des pleurs sur les sables qu'il foulait en chancelant, et qu'il répandait son âme à ses pieds comme une femme, folle de volupté ou de douleur, y répandait sa chevelure. Les paroles qu'il disait, il ne s'en soulageait pas. Elles n'étaient point de ces grandes irruptions de l'âme, infinies dans l'espace immense, domaine dont, comme les dieux d'Homère, en trois pas, elle a fait le tour. Ces paroles étaient bonnes et hospitalières, pleines de sincérité et d'affection. Il les adressait à un homme encore dans la fleur de la vie, quand 25 ans la font pencher un peu sous le trop mûr épanouissement. Celui-ci était debout, une main étendue sur les anfractuosités du rocher contre lequel il était appuyé et qu'il dominait de tout le buste, buste mince et brillant comme celui d'une femme, enveloppé, presque immatériel, des passions qui semblaient l'avoir consumé. Il tenait d'une main un bâton de voyage semblable à celui que les mendiants, les seuls pèlerins de notre âge, ont l'habitude de porter, dont ils tourmentaient rêveusement le sol. « Te voilà donc, Altaï !» lui disait Somgod. « C'est bien toi ? Ah, un peu plus avancé dans la vie, après 2 ans que nous nous sommes revus, après les siècles de ces quelques jours. Te voilà revenu à Somgod. Te voilà cherchant le poète et sa solitude. Moi, je ne t'avais point oublié. Tu n'es point de second oubli. Quand, il y a 3 heures, tu descendais la plus lointaine de ces collines que le soleil couvrait de ses ruissellements d'or, je t'ai reconnu, ô Altaï. Je t'ai bien reconnu à ta démarche, à la manière dont tu portais ta tête, à la fierté calme et jamais démentie de tes mouvements. Je me suis dit, c'est Altaï qui descend là-bas la colline. C'est lui qui revient trouver Somgod, le poète, le rêveur, le défaillant. Et j'ai éprouvé, jusque dans la moelle de mes os, une loi secrète, quelque chose de véhément et d'intime, comparable sans doute à ce qu'éprouvent les hommes capables d'amitié. Et j'ai mieux compris dans cet élan de mon âme à toi ces sentiments qu'avant de te connaître, je me croyais interdits. Je me suis levé de cette pierre où je passe une partie de mes jours, et j'ai pris mon bâton blanc derrière ma porte et j'ai descendu plus vitement la falaise que la jeune fille qui va voir débarquer son père le pêcheur après une absence de 7 nuits. Je me suis arrêté plusieurs fois pour te regarder venir. Je cherchais à démêler de si loin dans ton allure et tes attitudes le travail de ces 2 ans écoulés. Mais tu n'avais plus changé qu'un marbre sur un piédestal. Ton pied, contenteur de la terre, la foulait toujours avec le même mépris. Et comme autrefois, tu portais légèrement la fatigue et le poids du soleil. Et dans la route comme dans la vie, tu ne te reposais pas pour boire au fossé et cueillir des églantines au buisson. C'était toi, c'était bien toi. Mais tu n'étais plus seul, Altaï. Tu donnais le bras à une femme que la fatigue avait brisée et qui chancelait, quoique soutenue par toi. Hélas, c'est notre destinée à nous tous, faible créature, que tu as prise dans tes bras stoïques de chanceler encore quand tu nous soutiens. On n'échappe point aux lois de soi-même. Ne me l'as-tu pas dit souvent, quand tu avais cherché à armer mon sein de ton âme, et que toi, qui peux tant de choses, tu sentais que tu ne pouvais pas. homme unique et que le désespoir ne peut atteindre, homme qui, à force d'intelligence, n'a plus besoin de résignation. Tu me répétais, avec ton calme si doux et si beau, avec ta suprême miséricorde, tu n'as pas été créé pour combattre et vaincre. Ne perds pas tes facultés à cela. Pourquoi le bassin qui réfléchit le ciel désirerait-il être une des montagnes qui l'entourent? Il n'y a que Dieu qui sache lequel est le plus beau dans la création qu'il a faite, de la montagne ou du bassin. Quelle était cette femme, ô Altaï? Je l'ai vue de plus près quand tu t'es approché et que j'ai pris ta main dans les miennes. Et quoique la beauté des femmes ne me cause pas d'impression bien vive, et que Dieu m'en ait refusé l'intelligence, cependant elle m'a semblé belle. Et puis elle n'est pas née d'hier non plus, elle a bu aux sources des choses comme nous. La première guirlande de ses jours est fanée, est tombée dans le torrent qui l'emporte, et la trace des douleurs fume à son front, comme sur la route celle du char qui vient d'y passer. Pour moi, c'est la beauté suprême que cette attestation écrite au visage dans ses altérations, que la vie n'a pas été bonne. Toute femme qui souffrit est plus que belle à mes yeux. Elle est sainte. Douleur, douleur. On a là le plus merveilleux des prestiges. Vous vous mêlez jusqu'au seul amour de mon âme dans mon culte de la nature. Je me sens plus pieux pour elle les jours où elle paraît souffrir. Et je l'aime mieux éplorée que toute puissante. Quelle est-elle, cette femme, ô Altaï? Pourquoi l'as-tu amenée en cette solitude? Est-ce l'amour qui l'attache à tes pas? Est-ce cette amitié plus belle que l'amour encore et que tu as longtemps cherché? Ce magnifique sentiment dont tu parlais avec tant d'éloquence entre une femme pure et un homme fort? L'aurais-tu trouvé à la fin? Ou bien ton cœur ardent et tendre, ce grand cœur qui fait les héros et les amants, n'est-il pas lassé d'aimer, lassé de tenter l'impossible? Et ne crois-tu pas, ô mon austère philosophe, que l'amour est une vanité, un rêve qui fuit avant le matin? Quoi? Toujours des femmes dans ta vie? Toujours ce qui ne put tomber dans la mienne, remplissant la tienne jusqu'au bord. Je ne connais rien à ces amours stupides et suaves qui naissent entre vous tous qui vous aimez, êtres finis, hommes et femmes. Mais Altaï, tu l'aimes sans doute, celle-ci. Oui, tu l'aimes, car ta voix sonore s'assoupit comme un accent de rossignol en lui parlant. Car tes yeux, quand tu la regardes, s'attendrissent comme si tu n'étais pas calme et grand. Car, pendant le repas frugal à ma table de hêtre, elle n'a pas étendu la main une seule fois vers la jatte de lait que déjà elle était à tes lèvres, soulevée par ta main attentive. Et quand elle s'est couchée sur le lit de feuilles mortes du poète, à l'abri de cette hospitalité un peu sauvage mais cordiale, et la seule que j'ai à offrir à la femme délicate et lassée, tu l'as enveloppée avec un soin si plein de tendresse et d'inquiétude qu'il semblait que tu laissasses ton âme rouler autour d'elle avec les plis de ton manteau. « Oh, somme God !» répondait Altaï, « cette femme que je traîne avec moi n'est pas celle que tu supposes. Tu t'es mépris. Et ces deux années ne m'ont rien appris que je ne susse avant de les vivre. Tu ne l'ignores pas, je fus vieux de bonheur. Il y a des hommes qui sortent vieillards du ventre des mères. Toi et moi, ô somme God, nous sommes un peu de ces hommes-là. Quand je te disais que l'amour aurait moins encore que la jeunesse, quand le cœur, plein de ce sentiment formidable qui échappe à la volonté, je cherchais anxieusement à chaque aurore si 12 heures de nuit, un jour de plus, ne l'en avait pas arraché. si la flamme ondoyante et pure ne s'était pas éteinte dans l'âtre noir et refroidi, eh bien ce n'était pas la terreur, si commune aux hommes, de voir un bien fuir les mains qui le possédaient, et s'écrouler et se perdre, et les laisser veufs, pauvres, désolés. Ce n'était pas cette terreur qui m'égarait jusqu'au désespoir de l'amour. J'avais mis la grandeur humaine à souffrir. Je voulais être grand. Pourquoi donc me serais-je épouvanté de l'avenir? Pourquoi serais-je entré en de telles défiances? Aussi était-ce une conviction profonde et tranquille, comme le sentiment de la vie que je t'exprimais, ô Somme God, une certitude inébranlable et sereine, qui découlait des sommets de la raison, et qui projetait sa lumière sur l'âme encore passionnée, et d'une façon si souveraine que l'âme aveugle en sentait confusément la présence, et n'osait donner de démenti à cette évidence indomptable. Les années peuvent venir, ô Somme God. L'homme plie et s'use, mais la vérité demeure, et les expériences successives attestent l'éternité de la raison. Ô Somme God, j'ai pu aimer encore, j'ai pu retremper mes lèvres dans la lie du calice épuisé, mais à coup sûr, je n'y ai pas plus trouvé d'ivresse que dans le temps où il semblait assez plein pour ne pas de sitôt à rire. Si jamais, pas même à l'heure où l'homme en proie à des émotions divines, elle ne puisse entraîner et s'oublie, la démence n'a pas monté plus haut que le cœur et que le bonheur en qui l'on croit fut étouffé dans un jugement. Ce n'est pas quand l'âme traîne ses ailes, lasse d'avoir erré et essuyé à tous les angles de roche sa gorge sanglante, qu'elle y fait saigner un peu plus que des illusions décevantes viendrait se jouer enfantinement de la pensée. Mais cette femme que j'aurais pu aimer sans doute, car qui ne peut-on pas aimer dans la vie, n'a point été aimée par moi. Le dernier sentiment que je porte dans ma poitrine depuis des années est demeuré sain et sauf. Ce n'est pas une gloire, c'est un hasard, et je ne m'enorgueillis pas. Cette femme n'est pas non plus mon amie. Pour qu'une femme puisse être l'amie d'un homme, il faut qu'elle ait une immense pureté ou une grande force. Dans ce monde effronté et dans l'esclavage de nos mœurs, laquelle de ces choses est la plus commune? Voici 3 ans que je les cherche, ces 2 perles précieuses, la pureté et la force. Je ne sais pas si Dieu les y a mises, mais à présent, Dieu vannerait l'océan qui ne s'y trouverait plus. Pour la pureté, ce serait encore quelques enfances au sein des campagnes, ignorance et bêtement, torpeur, pureté grossière, perle d'une eau terne et d'une transparence bien douteuse. Mais pour la force, ô Somme God, il n'y aurait rien. Cette femme qui dort dans la maison, ô poète, est aussi faible que toutes les autres, et moins pure peut-être. Ce qu'elle m'est, je ne le sais point, si ce n'est ni mon amante, ni mon amie. Ô histoire éternelle de toutes les femmes, mais de quel mystérieux anneau est donc faite cette chaîne fragile qui nous unit? Est-ce pitié, tendresse ou respect pour la douleur endurée? Car, toi qui ne vois que les grands horizons du monde, réfléchis dans le miroir de ton âme, panthéiste noyé et épars en toutes choses, planté sur ton rocher en face de la nature comme un dieu terme qui sépare les 2 infinis de l'espace et de la pensée, tu as surpris sur les traits fanés de cette femme qu'elle avait eu, comme tous, sa part d'angoisse. Ton regard, dilaté comme celui des aigles, accoutumé à embrasser des lignes immenses, a saisi à travers cette beauté humaine ces imperceptibles vestiges que ce rude sculpteur intérieur, qui souvent brise le bloc qu'il voulait tailler, la douleur. nous gravent au visage comme des rayures dans le plus doux des albâtres. Mais si la douleur est sacrée, elle est commune. Elle n'est point un privilège parmi les hommes. Elle les égalise comme la mort. Pourquoi donc, s'il n'y avait que l'adoration de la douleur qui m'attachât à cette femme, pourquoi l'aurais-je plutôt choisie que toutes celles qui souffrent sur la terre? J'ai vu des femmes plus malheureuses, plus maltraitées du sort que celles-ci. Elles étaient la proie de nobles peines. Elles répandaient de généreuses larmes en face du gibet où pendait l'enfant de leurs rêves, quelque grande espérance immolée ou le plus bel amour trahi. Mères douloureuses qui s'usaient les paumes de leurs mains, essuyaient les torrents qui leur jaillissaient des paupières. J'ai passé près d'elles, m'assouvissant de ces grands spectacles, m'y trempant comme Achille dans le Styx, afin de me rendre invincible. J'ai passé muet, car je n'ignorais pas que l'épuisement de cette nature humaine qui ne peut souffrir ni pleurer toujours est le Dieu certain qui console. Qu'avais-je à leur dire à ces désespoirs qui sont la plus glorieuse substance de nos cœurs, à ces souffrances qui nous déshonorent, à ce qu'il semble quand nous ne les éprouvons plus, à ces Rachel qui ne veulent pas être consolées, à ces Caton d'Utique qui, trahis par l'épée, s'enfuit mieux à la main nue et intrépide pour s'arracher leur reste d'entrailles. Ma voix eût été une offense, mais celle-ci, ô Semegod, n'en était pas. Elle souffrait, mais sa peine n'était pas un deuil héroïque, une affliction qui relève et que l'on veut bien. Elle ne faisait pas comme la Lacédémonienne qui disait à son fils « Dessus ou dessous, car elle savait qu'il n'y avait ni honneur ni honte à la patrie à rester sur le champ de bataille, et elle avait perdu son bouclier. C'était une honte immense au milieu de tous les délices qui passaient et repassaient dessus, comme la main de la femme de Macbeth sur la tache de sang, sans l'effacer. Un long pli de sourcils au-dessus des deux yeux sereins et reposés comme les lacs au pied des montagnes. Une larme qu'un sourire retenait aux paupières, d'où jamais on ne la vit tomber. C'est pour ces douleurs, presque muettes, dévorées, enfouies, que l'homme est utile. Il écouve et les féconde sous sa parole. Du vague rose qui teignit cette joue, il fait une pourpre ardente et atave, cruelle brûlure de l'amour dont elle est un reflet. L'œil perd sa sénérité impudente, la bouche son sourire si doux et si stupide, la larme finit par tomber dans les lèvres devenues sérieuses. On souffre davantage, sans doute les horreurs du mépris s'augmentent, mais on finit par se savoir gré de la violence. On finit par se reprendre en respect de soi-même pour se draper si courageusement de son mépris. C'est pour cela, ô Semegod, que je m'arrêtais devant cette femme à qui les grandes douleurs de la vie n'avaient pas entrouvert la poitrine. Elles avaient glissé sur son sein comme sur de l'émail. Mais même en glissant, elles pénètrent encore, ses épais à serrer. Et tu l'as dit, elle avait bu quelques gouttes, ou plein sa coupe d'or, comme nous à la source des choses. Puisqu'elle avait vécu, elle avait souffert. Ne m'as-tu pas dit quelquefois, ô poète, ô toi qui n'as pas mis ta destinée à la disposition des hommes, que la vie était un don funeste, que la nature, comme l'homme, la prenait d'une voix plus profonde et plus douce, mais qu'elle le révélait aussi, et que cela était répandu jusque dans le rouge cœur des plus belles roses entr'ouvertes, au fond de leur plus pur parfum. Mais cette vie n'aurait eu pour elle que sa native amertume, si cette honte vague et sentie qui la troublait ne s'y était obscurément mêlée. Ô Semegod, il ne faut pas l'épaisseur d'un cheveu pour que l'âme soit opprimée et malheureuse, et on ne la sort de cet atome et misérable supplice quand la redoublant d'énergie, quand enfonçant de durs aiguillons flancs amollis, elle était cette pauvre femme, à qui la honte dont j'en attristais les ardeurs de jour en jour, plus défaillie, donna le courage de me suivre. Elle était errante comme moi à travers le monde, y traînant sa honte comme moi j'y traînais mes ennuis, et y cherchant je ne sais quel bonheur nerveux et débile, comme moi j'y poursuivais une trop difficile sagesse. Elle allait au soir sous les cieux étoilés, au détour des allées mystérieuses, trahie par le pan de sa robe qui flottait encore dans ses sinueux détours, lorsqu'elle était disparue par un parfum de cette chevelure tordue sur sa tête comme un voile mieux relevé, et dont la gerbe dénouée, déjà penchée, comme d'attendre, se répandait sous la première main. C'est là que souvent je l'ai vue, et c'est là que je m'arrêtais devant elle, barrant un bâton que voici les trois sentiers parcourus par elle, comme Socrate devant Xénophon, dans les joies sensuelles de sa vie, dans l'abandon et la fuite d'elle-même au sein de nuits de volupté bruyante ou recueillie, elle n'avait point perdu l'intelligence des nobles paroles. La feuille de saule sauve un insecte, tombé du bec de la colombe ou de la main d'un enfant. Je jetai la feuille de saule aussi, et je crus l'avoir sauvée. Du moins eut-elle le courage de me suivre, moi qui ne lui parlais pas le langage du monde et qui ne lui promettais pas d'amour. Oh, some God, les hommes, ces massacreurs de bonheur des femmes, consomment un forfait plus grand encore en leur rapetissant la conscience, qui finissent toujours par étouffer. Elles peuvent être avilies sans être coupables, victimes jusque dans leurs facultés. Les malheureuses ne sont qu'aveugles, on les accuse de chanceler au bord des fossés. Il ne s'agit pas d'avoir des entrailles, some God. Il ne suffit que d'être juste. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la pitié, ce n'est pas un de ces sentiments enthousiastes. La couronne sacrée de la vie, dont tous les fleurons ont jonché la terre autour de nous, de si bonne lueur, qui m'a fait me charger de cette destinée. C'est la justice, vois-tu. Il faut qu'il y ait des hommes qui payent pour l'humanité devant Dieu. Oh, some God, je n'ai pas au cœur une grande espérance. Cette femme est faible et peut-être m'échappera-t-elle, mais qu'importe. Quand on a foi, l'action en sort comme une épée de son fourreau. Mais c'est quand on doute qu'il est beau d'agir. Je suis venu te trouver, ô poète, dans le désert, ce temple dont tu es le prêtre. Car si ma parole est trop rude pour ces délicates oreilles accoutumées aux suavités des flûtes et aux endormissements du plaisir, la tienne ne l'effarouche pas. Elle l'entendra mieux. Elle s'assiera à tes pieds pour recueillir les beaux fruits tombés de la cime. Arbre merveilleux de poésie, elle oubliera les villes et les grossières ivresses qu'on y goûte. Puisses-tu la relever dans la grande tature, la baigner dans ses eaux éternelles et l'en faire sortir purifiée. Ton dessin est beau, Altaïr, il est digne de toi, reprit le poète. Mais qu'as-tu besoin de some God? Tu es bien toujours Altaïr. Le triste et serein Altaïr, qui sème sans croire à la récolte, ce généreux laboureur qui jette le blé aux quatre vents du ciel. Homme infortuné et grand, qui pour ne plus croire à la providence n'a pas apostasié la vertu, et qui sans une espérance dans le cœur combat pourtant comme si tu devais remporter la victoire. Ainsi dirent-ils longtemps encore, le philosophe et le poète. La nuit les surprit de visant. Elle tomba entre eux comme un silence. Dieu jeta dans les airs ses poignées d'étoiles et parmi elles, et plus bas que le ciel, sur la terre obscure, quelque rossignol qui se mit à chanter pour consoler le monde de la lumière perdue par l'harmonie. Le ciel se réfléchissait en Somgod et dans l'océan, dans le poète et dans l'abîme. Altaï était rentré dans la maison. Il regardait la femme qui dormait à la lueur épaisse et fumeuse de la lampe d'argile. Duhamvir de la pensée qui s'était partagé le monde, l'un avait pris la création pour sa part, et l'autre, plus ambitieux, s'emparait de plus vaste encore, la misérable créature. C'était la part du lion.